Ciotti. Et France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors notre invité ce soir, Benjamin Griveaux, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron. Donc François Bayrou, c'est fait, il vous soutient et vous voilà, vous en voilà ravi. Le programme économique était attendu, c'est fait, avec comme point important 60 milliards d'économies, 50 milliards d'investissements publics. Bref, moins d'économies que Fillon, mais des économies quand même. Un plan de relance, un coup à droite, un coup à gauche. Certains à gauche, on dira qu'il est de droite. À droite, on dira qu'il est de gauche. Macron n'est ni étiqueté à gauche et à droite. Tout cela saupoudré d'antisystèmes, habillé de nouveautés et d'esthétisme. En matière européenne, eh bien, il a une vision raisonnable. Justement, on a l'impression d'un programme aussi raisonnable, mais certains diront que c'est de l'eau tiède. Alors c'est quoi la flamme Macron? En 95, c'est vrai qu'il y avait la fracture sociale. En 2007, le travailler plus pour gagner plus. En 2012, la finance, c'est mon ennemi. 2017, Macron, dans le fond, la martingale, c'est quoi? C'est quoi la vision du candidat? Est-ce que c'est le Steve Jobs de la politique? Toutes ces questions, on va essayer de percer le mystère avec vous et avec Frédéric.
Eh oui, Benjamin Griveaux, c'est vrai que Emmanuel Macron est arrivé sans crier gare, il y a quelques mois maintenant. Et en préparant cette émission, avec Roselyne, on a pensé à ça.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il a un gros accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars.
Pierre
1974, il n'était pas né.
1974, mais on dirait quand même qu'elle a été écrite pour lui, cette chanson, non? Qu'est-ce que c'est que ce gars? D'où il sort? On va pas le laisser faire. Il a une drôle de voix. On pourrait y revenir d'un mot, hein, puisqu'il a pris un coach vocal. C'est étonnant, non?
C'est étonnant, et je crois que c'est aussi le climat général de la politique française qui a permis ça. Et on en est très conscient, c'est-à-dire que quand il a l'idée et qu'il conçoit le mouvement En Marche, l'intuition qui est la sienne, c'est que les deux grands partis traditionnels, finalement, qui depuis 30 ans jouent le jeu de l'alternance, n'ont pas réglé les questions idéologiques profondes qui, en leur sein, créent des divisions structurelles. Sur l'Europe, sur le modèle économique et social, sur l'état de droit, sur les questions de société, vous avez à gauche et à droite des fractures très fortes, qui d'ailleurs se sont fait jour lors des primaires. Le soir du 27 novembre, la droite sociale, européenne et libérale était orpheline. Mmh. Et le soir du 29 janvier, la gauche qui part du réel, pragmatique, réformiste, à nouveau pro-européenne, était aussi orpheline.
Donc il joue sur la décomposition de la classe politique et face au populisme, le centrisme a ses chances?
Il n'en joue pas, il l'a constaté, oui, il essaie de la dépasser. Et c'est là la difficulté que vous mentionniez tout à l'heure en nous disant mais quel finalement va être le slogan de cette campagne,
oui,
etc.
Parce que là pour l'instant il est sorti des nuages.
On assume de faire une campagne sans slogan parce que en 95 la fracture sociale, 6 mois après c'était le plan Juppé. En 2007 le travailler plus pour gagner plus c'était le plan de rigueur qui a suivi. Et en 2012 la finance est mon ennemi était oublié dans l'été. Les Français n'attendent pas au regard de la tension qu'il y a politique, économique et sociale dans le pays une campagne de slogan. Il souhaite une campagne projet contre projet. On nous a suffisamment fait le reproche de ne pas avoir de projet. Le programme sera présenté dans sa totalité jeudi, donc après-demain. Et le programme économique est sur la table. Notre cadrage budgétaire à nous a été fait. Il ne bougera pas. Et le gros avantage du programme présenté le 2 mars, c'est qu'à nouveau, il ne bougera pas, contrairement aux autres.
Alors, Emmanuel Macron ne se dit pas ni de droite ni de gauche, mais et de droite et de gauche. Est-ce que ça ne s'appelle pas, au fond, ça, l'Union nationale?
C'est une forme d'union des progressistes. Ils considèrent que le clivage gauche-droite a vécu, que sans doute ça n'est plus la bonne grille d'analyse du monde moderne. Parce que moi, je ne sais pas dire aujourd'hui si, quand vous faites le choix, par exemple, de mieux rémunérer le travail, c'est une mesure de gauche ou de droite. Je ne sais pas si, quand vous mettez en place une police de sécurité quotidienne qui, par exemple, a l'autorisation de verbaliser immédiatement des petits délits, des petites incivilités, c'est de gauche ou de droite. Je pense que vous avez cette ligne de fracture qui s'est fait jour dans les 10 dernières années entre les progressistes d'un côté et les conservateurs, plutôt eurosceptiques, disons-le, dans leur majorité. Il est aujourd'hui, à ce stade, le seul candidat ouvertement européen. Les autres sont mieux eurosceptiques, au pire souverainistes.
Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est ce que lui a reproché, par exemple, même dans mon papier dans Telos, Jean-Louis Bourlange, où il dit, dans le fond, il est en suspension entre ciel et terre. Il y a cette connotation mystique où il confond un peu la mystique et la politique. Est-ce que c'est ça, dans le fond, la martingale Macron, c'est-à-dire ce qui va, un candidat de l'esthétisme qui est sérieux, effectivement, sur les sujets d'économie, sur l'Europe, vous l'avez dit, vous avez raison. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Macron, en fait?
Une élection présidentielle, c'est évidemment une offre politique, c'est un projet politique, et c'est aussi un moment où il y a une rencontre entre un peuple, à un moment de son histoire, et une personnalité. Et nier cette dimension-là de l'élection présidentielle, c'est ne pas avoir compris l'esprit de nos institutions. On peut regretter que la Ve République fonctionne sur ce schéma présidentiel. Il n'en reste pas moins que cette élection reste
donc
l'élection...
Donc c'est un homme providentiel,
Non, ça
Macron
n'est pas ça. Ça reste l'élection où vous avez 80% de participation. Les Français sont à ce rendez-vous électoral. Et considérer que la dimension personnelle, et on l'a vu dans les dernières semaines, pourquoi François Fillon connaît des difficultés? Parce que dans sa dimension personnelle, il a été attaqué sur le magistère moral. Mmh. Il a perdu de ce magistère-là qu'il mettait en avant pour dire qu'il avait les épaules pour assumer les plus hautes fonctions de l'État. Et donc, nier la dimension personnelle, c'est ne pas comprendre cette élection. Elle ne se fait pas que là-dessus. C'est évident. Les Français sont des gens intelligents. Ils écoutent les programmes. Ils les comparent. Les médias, aujourd'hui, permettent d'ailleurs ce travail-là. Et s'il y en a un qui ne fait pas siffler les contre-pouvoirs que sont les médias dans ces meetings, c'est bien Emmanuel Macron. Les réseaux sociaux, avec ce que cela comporte parfois d'informations erronées, de sites pour le moins douteux, permettent en tout cas de faire ce travail, cet exercice d'hygiène démocratique pour nos compatriotes, et c'est aussi cela, cette élection.
Mais est-ce que le clivage politique gauche-droite qui fonctionne en France depuis des décennies n'est pas, au fond, nécessaire à la démocratie?
Moi, je ne crois pas, parce que...
Si ce clivage-là disparaît, qu'est-ce qui reste?
Vous savez, la gauche et la droite ont confisqué la devise républicaine depuis 30 ans. Quand vous êtes de droite, vous êtes pour la liberté, la production et la responsabilité individuelle. Quand vous êtes de gauche, vous êtes structurellement pour l'égalité et pour la redistribution. Mais qui peut croire, honnêtement, qu'on redistribuera sans produire? Qui peut croire que, quand vous mettez de la liberté uniquement sur la table, vous ne créez pas une loi de la jungle et que, évidemment, vous avez des besoins de protection en face? C'est dans cet équilibre-là, c'est dans cette conjugaison de nos deux premiers mots de notre devise républicaine qu'on peut réconcilier le pays. Pourquoi ce pays est bloqué? Parce que soit on a fait la loi de la jungle et ça ne fonctionne pas, soit on a bloqué la société avec des principes statutaires et avec des plafonds de verre. Franchement, la mise en œuvre, par exemple, de l'égalité républicaine, quand vous voyez aujourd'hui que les gamins à l'école, dans certains quartiers, vous avez 40% d'échecs scolaires en fin de CM2, ça montre bien que le principe d'égalité qui est de faire la même chose pour tous ne fonctionne plus et qu'il faut lui associer un principe d'équité sans doute un peu différent. Donc les choses sont en train de bouger.
Sans clivage, l'alternance, comment elle fonctionne?
Mais il y a un clivage. Entre les progressistes et les conservateurs. Non. Entre les progressistes et les conservateurs, on a un clivage politique majeur avec Marine Le Pen. On a un clivage politique majeur avec les souverainistes. On a un clivage politique majeur avec Jean-Luc Mélenchon, avec le revenu universel défendu par Benoît Hamon, parce que nous ne croyons pas à une société sans travail. Voilà les clivages qui sont aujourd'hui sur la table. Ce ne sont plus des clivages gauche-droite.
Alors, vous parliez de réconciliation. Alors, c'est bien, être élu, c'est encore mieux, mais après, il faut gouverner. Mmh. Et aujourd'hui, donc, les deux personnalités en tête dans les sondages, donc au premier tour, c'est Marine Le Pen, suivie d'Emmanuel Macron. Donc, deux candidats qui gouverneront avec quelle majorité s'ils sont élus? Si Marine Le Pen, on sait très bien qu'elle n'a pas de troupe, et la personne pour gouverner, elle n'a pas de majorité, et Emmanuel Macron...
Elle n'a pas de troupe, elle a entre 25 et 30% d'intention de vote. Et nous, on a 200 000 adhérents.
On parle de personnalité
à notre mouvement. J'entends bien, mais
pour gouverner, pour avoir des ministres. Voilà.
Alors, il y a deux choses. D'abord, la question des élections législatives.
D'abord, la question
des élections législatives, qui est que seront portés par nos candidats le contrat avec la nation présenté par Emmanuel Macron jeudi matin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on présentera des candidats dans les 577 circonscriptions, estampillés En Marche, la moitié venue des bancs de la société
civile.
Vous en
êtes où d'ailleurs sur les...
On a reçu à peu près 10 000 candidatures qui sont en train d'être examinées par la Commission nationale d'investiture présidée par Jean-Paul Delevoye. La moitié de ces candidats seront des gens issus de la société civile et pour l'autre moitié, des gens qui sont soit des parlementaires sortants, de l'ensemble du champ républicain, soit des élus locaux qui, dans leur territoire, ont réussi à opérer des transformations importantes et qui, demain, peuvent aspirer à être
parlementaires. Donc pas de risque de cohabitation si vous êtes élu?
Écoutez, nous, on a une offre politique cohérente. La cohabitation, j'ai quand même le sentiment, quand je vois ce qui se passe au Parti Socialiste et que j'entends les propos des uns et des autres sur le programme de Benoît Hamon, ou quand je vois les discussions d'arrière-boutique entre l'UDI et François Fillon, mon sentiment, c'est plutôt que eux auront des frondeurs et pas nous.
La moitié qui vient de la société civile n'a jamais été élue pour l'instant. Ce serait de nouveaux élus.
Absolument.
C'est une volonté, ça, de renouveler le personnel politique avec limitation des mandats.
Oui, limitation du mandat dans le temps, en plus de la limitation géographique des mandats, probablement une limitation à 3, et avec l'idée que l'Assemblée nationale doit être doit ressembler au visage qu'offre la société française. Vous avez un commerçant qui est présent à l'Assemblée nationale. Vous avez une surreprésentation des personnes retraitées, parce que ça laisse le temps de faire la politique, des gens issus de la fonction publique et des professions libérales. C'est-à-dire des métiers où vous pouvez prendre du temps sur le vôtre, où vous avez des mises en disponibilité ou des retours possibles. Un salarié aujourd'hui qui voudrait s'engager dans une élection législative, c'est extrêmement compliqué. C'est coûteux. Ça prend 2 à 3 mois de campagne où vous ne pouvez pas objectivement remplir votre mission dans l'entreprise où vous êtes. Et donc, ça, c'est une barrière à l'entrée terrible. Il y a une autre forme d'autocensure chez les femmes. On a lancé des candidatures. On a reçu dans les premières semaines seulement 15% de candidatures féminines.
Ouais.
Et donc, on a fait ce travail. Aujourd'hui, on a doublé ce taux-là.
Comment vous l'expliquez, d'ailleurs ?
Beaucoup d'autocensure. Beaucoup de craintes, très franchement, de l'ambiance politique du pays aujourd'hui et la violence absolue des échanges politiques freinent non seulement les femmes, mais les jeunes hommes aussi, qui disent « voilà, moi j'ai 35 ou 40 ou 45 ans, j'ai une vie professionnelle accomplie, j'ai une famille, je vais pas aller me mettre dans un exercice où ma vie personnelle va être déballée, je vais subir les pires attaques ». Très franchement, je peux comprendre les réticences des uns et des autres. Mais c'est à ce prix-là qu'on arrivera à renouveler à la fois l'Assemblée nationale, la manière de faire la loi, la manière de contrôler l'action du gouvernement. Et très franchement, quand on voit ce que des professionnels de la politique ont fait de ce Parlement depuis 30 ans, je suis à peu près certain que des non-professionnels de la politique feront mieux.
Alors, est-ce que quand François Bayrou a annoncé qu'il faisait un accord avec Macron, vous avez sauté de joie, j'imagine?
Savez, on a souvent dit que c'était un homme seul, qu'il n'était pas accompagné, etc. Donc on ne va pas, désormais que certaines personnalités reconnues, François Bayrou, c'est une personnalité politique importante de la vie politique française, candidat à 3 reprises à l'élection présidentielle, avec ce score dont chacun se souvient en 2007, sur une ligne politique qui est en cohérence avec ce qu'on fait. C'est-à-dire quand il est venu avec le projet d'alliance, il n'y avait pas de difficulté. La meilleure rémunération du travail, c'était sur la table. Loi sur la moralisation de la vie publique en termes de probité. Les statuts d'En Marche, qui datent du 6 avril 2016, prévoient déjà l'interdiction pour nos futurs parlementaires d'embaucher des gens de la famille. On n'a pas attendu les affaires des dernières semaines pour faire ça. Et au mois d'octobre à Strasbourg, Emmanuel Macron s'était longuement exprimé sur les questions de probité. Donc, on a trouvé des cohérences et des convergences intellectuelles avec François Bayrou.
Et pas de truc d'arrière-boutique, comme vous disiez il y a quelques instants, entre l'UDI. Vous avez bien négocié des petites choses pour les législatives.
Non, parce que en vérité, si on fait ça...
Il joue sa survie, Bayrou, là, quand même, pour les législatives.
Il a aujourd'hui, il y a un député MoDem, Thierry Robert, qui nous a rejoint 3 semaines avant François Bayrou. Donc, on n'est pas sur un sujet d'appareil. On n'est pas sur ces négociations-là pour une raison simple, c'est que si on fait ça, les gens nous font crédit de notre sincérité. Si on fait comme les autres, un, on le fera moins bien parce qu'ils le font depuis 30 ans, et deux, on perdra la sincérité, c'est notre principal atout pour les gens pour nos adhérents.
Vous seriez les seuls à incarner la probité
Ça n'est pas ce que je dis, mais en revanche, la politique française. Ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il n'y aura pas de discussion d'appareil et qu'un soutien ne vaut ni un fléchissement de la ligne politique, ni une investiture législative. C'est un message donné pour tous ceux qui, demain, imagineraient venir négocier un ralliement de dernière minute. Vous savez, il y a eu les Mitterrandiens du 11 mai, il n'y aura pas les macronistes du 24 avril.
C'est vous alors qui avez dit « on ne prendra pas les crevards » chez Emmanuel Macron?
On n'emploie pas ce terme-là.
Cette phrase a été
phrase a été commentée, elle n'est pas sourcée.
Vous ne le dites pas comme ça, mais c'est un peu ce que vous dites quand même.
Vous savez, non.
Pas de ralliement de la 25e heure.
Pas de ralliement de la 25e heure, ça c'est évident, mais j'ai trop de respect pour les responsables politiques, trop de respect pour les élus de ce pays pour parler en ces termes-là.
Ouais, mais et d'un mot sur Bayrou, il avait vraiment une autre possibilité qui s'offrait à lui aujourd'hui, où finalement c'est quand même un peu résigné qu'il s'est rallié à Emmanuel Macron.
Écoutez, pensez que François Bayrou fait ses choix par comment dire, de manière résignée, c'est, je crois, mal connaître, la liberté qui a toujours été la sienne dans la vie politique française. Je crois qu'il a fait ce soutien et cette alliance avec sincérité.
Certains annonçaient des bataillons de ralliement autour de Emmanuel Macron, et certains disaient chez vous, mais on n'est pas la SPA des socialistes. Mais écoutez quand même ce que disait le ministre Jean-Marie Le Guen, c'était ce matin assez dur pour Benoît Hamon.
Dans l'état actuel des choses, moi et des dizaines d'autres parlementaires, nous ne pouvons pas donner notre parrainage à Benoît Hamon. C'est pour ça que je fais un appel un peu solennel à son attitude. Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne.
Alors, vous dites par ici la bonne soupe ou, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous.
Nous, ceux qui souhaitent demain soutenir la démarche engagée, qu'ils le font avec sincérité, qui n'ont pas eu des propos orthogonaux à l'égard des valeurs portées par le mouvement, sur la question européenne, sur le modèle économique et social, sur la vision de la justice qui est la nôtre, sont les bienvenus. Il faut le faire avec sincérité et sans arrière-pensée. C'est aussi simple que cela.
Qu'est-ce que vous préférez? Des ralliements au compte-gouttes? On a vu par exemple ce week-end Christophe Caresche, député socialiste qui vous a rejoint. Au compte-gouttes ou d'un bloc?
D'un bloc, qui arrive. D'un bloc, ça signifie un accord d'appareil, et vous aurez compris que la démarche qui est la nôtre ne s'inscrit pas dans des accords d'appareil.
Et c'est la seule manière de fonctionner pour vous.
Ouais. Et vous espérez un soutien de François Hollande ou
nous ne l'avons pas sollicité, nous ne le sollicitons pas pour une raison simple, c'est que Emmanuel Macron a d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. C'est-à-dire que le président de la République doit exercer son mandat jusqu'à son terme, qu'il est au-dessus des partis, c'est l'esprit des institutions, c'est l'esprit de la Ve République, et qu'il n'est sans doute pas de son rôle d'intervenir dans le cadre d'une élection. Donc ce soutien n'est pas sollicité dans le cadre de cette élection.
Alors Emmanuel Macron est repassé ces derniers jours devant François Fillon dans les intentions de vote, alors qu'à un moment donné, les courbes s'étaient croisées. Et sa base électorale, c'est-à-dire la solidité de l'engagement des gens qui aujourd'hui disent qu'ils vont voter pour lui, s'est renforcée assez considérablement, d'une vingtaine de points. Est-ce que vous voyez là un effet Bayrou?
Je pense qu'il y a un effet lié à l'alliance avec François Bayrou. Je pense aussi que à force de dire qu'il n'avait pas de projet, les Français se sont aussi intéressés à ce qu'on a mis en ligne sur le site, puisqu'il y a déjà 80 à 100 propositions qui sont parfaitement accessibles sur le site d'En Marche, qu'ils ont lu, qu'ils voient que sur les territoires, c'est nous qui menons campagne. La semaine dernière, nous avons organisé 1500 réunions publiques dans le pays, et les gens y viennent nombreux, ils viennent écouter. Ils voient que il nous arrive d'avoir des débats en notre sein, et que parfois les gens ne sont pas d'accord, et c'est sans doute cet esprit qui n'est pas un esprit de caporalisation des esprits, est très différent de ce qui se fait parfois dans d'autres partis. C'est un espace de liberté un peu nouveau, où les gens ont envie de s'engager. Moi je mets ça sur le compte de différents facteurs, je ne crois pas à un facteur qui permet de gagner 4 ou 5 points. Par ailleurs, je tiens non pas à distance, mais enfin on regarde avec parcimonie les enquêtes. Vous savez, ça nous évite d'avoir à les commenter quand elles sont mauvaises, d'en dire du bien quand elles sont bonnes. Donc on s'en tient.
Et le fait de vous trouver dans la raisonnée. Je l'ai dit, on est au mois de février, mais l'idée de vous trouver dans la situation de Juppé il y a 3 mois, c'est-à-dire un peu le favori, ça vous...
Écoutez, la favori des sondages, c'est Marine Le Pen pour l'instant, et les scores qui au second tour font qu'aujourd'hui elle est autour d'un socle de 40%. Dans le duel face à Emmanuel Macron, elle est même à un peu plus de 40% dans l'hypothèse où François Fillon se qualifie, font de Marine Le Pen non pas une candidate sérieuse pour le second tour, mais une candidate sérieuse pour l'accession à la présidence de la République. Et donc nous, notre objectif, c'est de virer en tête du premier tour, de faire en sorte qu'elle ne soit pas, elle, le premier parti de France à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle. La tâche est immense, nous sommes regardés de l'étranger, nos voisins européens nous regardent inquiets, parce que ce serait un très mauvais signal envoyé à nos voisins, un très mauvais signal envoyé notamment à nos partenaires commerciaux à l'étranger. Et donc, il est de notre responsabilité de consolider ce vote, de cristalliser les électeurs. Et puis, vous savez, les Français vont entrer de plein pied dans cette élection présidentielle, là, au mois de mars. Nous y sommes, nous, plongés, parce que c'est notre quotidien depuis des mois. Les Français ont 7 semaines désormais pour lire les projets, interroger les candidats, écouter les débats. Et ils se feront leur opinion à l'issue de ces 7 semaines.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On va marquer une petite pause, le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité et se retrouver dans 5 minutes à peu près. C'est ça. Ouais. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et avec notre invité Benjamin Griveaux, donc porte-parole d'Emmanuel Macron. On va parler dans quelques instants du programme économique, mais c'est surtout jeudi, là, cette semaine, jeudi matin, qu'Emmanuel Macron va donner l'ensemble de son programme, dans le fond, de savoir qu'est-ce qu'il pense des sujets régaliens, qu'est-ce qu'il pense de l'éducation, voilà, ce qui manquait un petit peu, et qui arrive petit à petit, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'il fait vivre ce qu'on appelle le storytelling en politique. Alors, sur le programme économique, ce que je disais tout à l'heure, c'est la gauche va lui reprocher d'être à droite, et la droite va lui reprocher d'être à gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur la vision d'ensemble de ce programme que va annoncer ? Je sais que vous avez un embargo, que vous pouvez pas en parler, mais essayez de nous donner quelques lignes de force de ce programme.
La ligne de force, elle se résume assez simplement dans un équilibre entre deux termes très simples. Libérer d'un côté et protéger de l'autre. C'est par la conjugaison de ces deux principes-là qu'on arrivera à réconcilier le pays, la France périphérique qui se sent exclue de la mondialisation, et qui vit la crise de plein fouet, et la France des métropoles qui, elle, est plus à l'aise dans la mondialisation, même si elle a, malgré tout, des besoins de se préparer à cela.
C'est ce qu'on appelle la flexisécurité, finalement. Le concept n'est pas si nouveau.
C'est un concept très nouveau.
Vous avez travaillé avec
France.
Dominique Strauss-Kahn, d'ailleurs, à une époque.
Parfaitement. Ouais. C'est un concept qui est assez nouveau en France, parce que on en a beaucoup parlé, il n'a jamais été mis en œuvre. À savoir que quand vous mettez une liberté supplémentaire, par exemple sur la question du travail, si vous ne faites que de l'insécurisation en plaçant la liberté au cœur du projet, ouais, sans mettre de protection en face, vous n'incitez pas les gens à prendre des risques parce que, évidemment, si on vous dit, voilà, si vous réussissez, c'est le jackpot, en revanche, si vous vous plantez, vous n'aurez pas de protection. Ouais. Et ce pays a cette double contradiction qui est que on pointe du doigt les gens qui réussissent et en même temps, on n'a pas le droit d'échouer. Quand vous échouez à l'école à 14 ou 15 ans, on vous met dans une filière et on vous dit « rendez-vous dans 40 ans pour la retraite, tu ne sortiras pas de cette filière ». C'est cette idée-là que on veut promouvoir pour remettre de la mobilité dans le pays.
Vous donneriez un nom à ce programme, il est quoi, social-libéral ? Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a un problème en France avec l'argent, avec la richesse, avec le fait de travailler ?
Il y a un problème des partis politiques avec le rapport à l'argent, mais un problème que n'ont pas les Français. Vous savez, les Français sont souvent plus en avance sur leur temps que leur classe politique. Ils ont mieux gardé leur sang-froid dans la période des attentats que nous avons connus, et ils sont sans doute plus au fait des réalités. Quand le 15 du mois, vous êtes dans le rouge, je ne crois pas que ce soit un problème de parler d'argent. Ce sont ceux qui en ont, qui n'en parlent pas, parce qu'ils considèrent que c'est pas moral, un peu sale, etc., dégradant. Mais les gens qui, le 15 du mois, sont dans le rouge, croyez-moi, parler d'argent, savoir comment on rémunère mieux le travail, comment on fait en sorte que la jeunesse de ce pays n'ait pas des taux de chômage dans les quartiers de 40, voire 50%, savoir comment demain vous faites une assurance chômage universelle pour permettre à des artisans, à des commerçants, à des auto-entrepreneurs de bénéficier d'une protection légitime.
Parce que ça va être ça la proposition.
Le cœur du sujet, c'est finalement l'école et le travail. Parce que le travail, c'est finalement, c'est dans la continuité de l'école. Et si on réussit pas ces deux éléments-là, eh bien, on ne remettra pas le pays sur les rails, on n'entrera pas pleinement dans le 21e siècle, on n'offrira pas aux Français les protections qu'ils attendent dans un monde où vous avez des transformations très violentes dans le monde professionnel, où vous avez des métiers qui vont disparaître et où personne ne fera plus le même métier pendant 30 à 40 ans. Il faut pouvoir assumer ces protections individuelles, ne plus protéger les postes, mais protéger les personnes.
Et sans avoir besoin du revenu universel.
Sans avoir besoin du revenu universel, qui n'est pas notre conception de la société.
Alors, sur le programme, il sera dévoilé en totalité vendredi.
Jeudi.
Oui, après-demain. Mais il y a déjà des choses que l'on sait. Le programme économique, notamment, qui a été présenté il y a quelques jours. 60 milliards d'économies sur la dépense publique. Il les fait où, ces économies-là ?
Alors,
c'est déjà catégorisé ?
Ouais, il y a trois postes principalement. 25 milliards d'économies seront réalisées sur l'État et ses opérateurs, des agences parfois nombreuses qui ont été créées ces 20 dernières années. 25 milliards sont réalisés sur l'affaire sanitaire et sociale, 15 milliards sur l'assurance maladie et 10 milliards sur l'assurance chômage, et 10 milliards auprès des collectivités locales, donc le total pour un total de 60 milliards. L'idée étant
Sans baisser les remboursements, diminuer les indemnités chômage, remboursement de santé,
sans diminuer évidemment le moindre remboursement, ça il l'a dit dès le départ. Ouais. Vous savez, dans la santé, vous pouvez faire des économies. Sans doute n'a-t-on pas pris pleinement la mesure des possibilités qu'offrait le numérique. Sans doute dans l'organisation des soins. J'écoutais un sujet tout à l'heure, je crois, sur votre antenne qui marquait que quand vous arrivez aux urgences, 60% des gens n'ont rien à y faire. Le coût moyen d'une personne quand vous pénétrez aux urgences, quelle que soit la pathologie qui est la vôtre, c'est 250 euros. Donc vous comprenez bien que si on arrive, par exemple, à limiter ce flux en amont, à travailler intelligemment entre l'hôpital et la médecine de ville en décloisonnant, vous allez faire chuter ce coût-là qui est associé aux urgences et permettre aux urgences de faire pleinement leur mission. Donc vous avez par à la fois des mesures structurelles et puis des mesures d'organisation du parcours de soins, des économies qui peuvent être faites sans toucher au remboursement. Et il a même dit qu'il irait à 100% de remboursement sur le dentaire, sur les lunettes et sur les prothèses auditives.
Comme Fillon.
Mais pas de la même manière. Parce que François Fillon, il pense sous contrainte. Ouais. Et puis François Fillon, c'était pas exactement ce qu'il
c'était
nous expliquait
pas la première
il y a trois mois. Et donc peut-être que le programme changera à nouveau dans 15 jours. On est toujours très attentifs. Mais François Fillon, il dit, c'est l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires qui prendront. Mais il oublie une dimension, c'est le prix qu'il faut faire baisser. Et c'est sur ce prix qu'il faut jouer pleinement. Ça n'est pas en faisant payer plus l'assurance maladie ou les complémentaires, parce qu'immanquablement, ce sont les Français qui paieront à la fin des fins.
Alors, il y a les sujets économiques, très, très importants aussi, mais il y a les sujets, je disais, régaliens, et les sujets internationaux. Mm-hmm. Donc là, évidemment, on entre dans une ère, on a Trump, le Brexit, on a toujours le terrorisme et Daesh. Là-dessus, quelle est la vision macronienne de la lutte contre Daesh, c'est un vaste programme, comme dirait l'autre. Mais si vous pouvez nous en dire là encore...
Écoutez, on a en tout cas à ce stade Marine Le Pen qui sera une présidente si elle est élue sans influence parce qu'elle tourne le dos à l'Europe. Et si vous n'avez pas cette dimension-là dans le positionnement de la France sur la scène internationale, vous n'existez pas. Et on aura un président sous influence puisqu'il ne fait pas de la politique avec Donald Trump ou avec Vladimir Poutine, mais derrière Donald Trump et Vladimir Poutine, avec objectivement des relations dont on peut considérer qu'elles rompent avec la tradition d'indépendance de la politique étrangère française. Emmanuel Macron s'est rendu au Proche-Orient, en Jordanie, au Liban, il y a quelques semaines. Il a dit que la priorité absolue vis-à-vis de l'État islamique, c'était l'éradication de Daesh, qu'il ne fallait pas faire de la sortie de Bachar el-Assad un préalable, mais qu'en revanche, il fallait réinstaller autour de la table l'Union européenne, qui est absente. Les discussions se sont tenues à Astana. Vous avez la Russie, la Turquie et l'Iran. L'Union européenne est absente, ça n'est plus possible. Et que c'est par la voie du multilatéralisme, et notamment sur la question humanitaire et la question des réfugiés, qu'il faut que l'Europe remette un pied.
Il est sur la ligne de Jean-Yves Le Drian, la ligne actuelle de sur Bachar, la ligne de Le Drian, a priori.
Alors, puisque vous avez parlé du Liban et du voyage d'Emmanuel Macron...
Vous voulez parler d'Algérie avant, peut-être
Peu importe.
Allez-y.
Alors, l'Algérie...
On n'a pas d'ordre.
Parlons de l'Algérie, en effet. Puisqu'il y a eu cette phrase qui a été très largement commentée d'Emmanuel Macron, qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y avait dans ce propos un calcul électoral, un calcul politicien ?
Non, parce que je ne sais pas dire si électoralement la chose est payante ou pas. Ce qu'il est important de constater, c'est que manifestement, ce moment de l'histoire de France, le travail de mémoire, le travail d'historiographie n'a pas été fait. Quand on voit les réactions, et il comprend qu'il a pu blesser.
C'est un voyage raté ou pas ? Est-ce que c'était un voyage raté ?
Non, ça n'est pas un voyage raté, parce que déjà vous nouez des relations importantes avec les membres du gouvernement. Il a évidemment été éclipsé. Tout ce qui a été dit par ailleurs a été éclipsé, mais il a dit des choses intéressantes sur les coopérations à venir, sur les questions d'enseignement, notamment d'enseignement supérieur, de coopération économique avec l'Algérie. Sur le fond de cette histoire, la réconciliation des mémoires est indispensable. Quand vous avez aujourd'hui des gamins dans les quartiers qui n'ont pas connu la période de la colonisation, qui identitairement se construisent en tant qu'individus, par rejet de cette période-là, c'est que les cicatrices sont ouvertes, les plaies sont béantes, et qu'il faut, et c'est le rôle d'un président de la République, mettre ces sujets sur la table, parce que manifestement,
le terme de crime contre l'humanité, quand même,
pendant 40 ans, n'a pas permis de régler le problème. On va fêter le 55e anniversaire des accords d'Évian dans quelques jours. Ce problème-là est un sujet qui appartient sans doute à notre génération d'aborder, parce que nous n'avons pas connu la guerre, parce que nous n'avons pas connu la décolonisation, nous n'avons pas connu cette période-là, et peut-être les historiens qui ont fait ce travail sur des périodes sombres de l'histoire de France, sur des périodes sombres d'autres pays, ont besoin de ce temps-là, de ce travail mémoriel-là, et qui doit être connu.
La page n'est pas tournée, ça que vous dites. Mais...
Non.
Et on pourrait se demander ce que pense Jean Pisani-Ferry, qui s'occupe du programme, qui est un grand économiste, qui était longtemps à France Stratégie, qui avait fait d'ailleurs un rapport sur la France dans 10 ans, donc Jean Pisani-Ferry, de son nom. Est-ce que ça lui a fait plaisir, puisque c'est...
Je pense qu'il n'y a pas de difficulté.
C'est compliqué d'avoir
Pisani-Ferry.
D'avoir quand même un homme dans son équipe.
Vous savez, les temps ont changé depuis Jules Ferry, et en tout cas, moi, j'ai en mémoire évidemment ce qu'a pu faire Jules Ferry pour l'école dans ce pays, mais j'ai aussi en mémoire les mots de Clémenceau sur ce
qu'est la colonisation dans son discours
de 1885 sur la colonisation. Je reconnais volontiers que je suis plus Clémenceau que Ferry.
Voilà, c'est ce que...
Alors, on parle du Liban.
Ce que vous répondiez.
On parle du Liban maintenant avec le voyage de Marine Le Pen qui a refusé de se voiler pour rencontrer le grand moufti du Liban. Ce geste a été présenté par la plupart de ses adversaires comme un coup médiatique, sauf par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était jeudi dernier sur France 2.
Nous, les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. D'autant que, si j'ai bien compris ces explications, cette rencontre avait lieu en dehors du lieu de culte. Et par conséquent, ce monsieur n'avait aucun titre à essayer d'imposer à un Français, quel qu'il soit, un comportement qui ne convient
pas. Est-ce qu'à Rome, il ne faut pas faire comme à Rome, comme les Romains ?
Non.
Il faut faire comme les Français à Rome ?
Oui.
Sur quelle ligne êtes-vous par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? Il a raison ? Ou vous pensez qu'en effet, Marine Le Pen a fauté ?
Écoutez, je ne connais pas les circonstances et vous évoquiez tout à l'heure le fait que le moufti avait donné la règle, qu'elle avait dit qu'elle viendrait, qu'elle ne se voilerait pas et que donc il y a une incompréhension d'une part et d'autre. Franchement, c'est pas à moi de déterminer ça. En revanche, le principe pour moi est assez clair, c'est que il m'apparaît compliqué de demander à des étrangers de se conformer aux lois de la République, ce qui est parfaitement normal quand ils sont sur le territoire français, et que nous, Français allant à l'étranger, on ne se conforme pas aux us et coutumes ou aux règles d'usage qui sont en vigueur dans le pays. Ce que l'on demande aux étrangers venant en France, la moindre des choses, c'est que nous le respections, nous, quand on se rend chez eux, que ça relève les droits, les usages, les coutumes.
Elle est en visite, ça n'est pas forcément...
Elle est en territoire étranger. Et de la même manière, je considère que les étrangers se rendant en France doivent respecter les règles et les usages de la République.
Ouais. Vous pensez donc qu'elle aurait dû finalement se plier à cette exigence
de la même manière que je pense que les étrangers qui se rendent en France doivent se plier aux règles de la République. La règle est très claire.
Et que les femmes, par exemple, venues d'Arabie Saoudite ne devraient pas porter le voile dans l'espace public.
En tout cas, pas la burqa, ça c'est évident.
Alors, on va continuer sur les voyages d'Emmanuel Macron, puisque à chaque fois qu'il va à l'étranger, il nous fait une petite boulette, mais quand il est allé...
Si vous considérez que parler de l'Algérie, qui est une cicatrice qui n'a pas été refermée depuis 55 ans, est une boulette,
c'est
bien au-delà,
et
c'est le rôle d'un futur président de la République de parler,
le crime
y compris des sujets qui fâchent.
La notion de crime contre l'humanité était peut-être à ce moment-là...
Il l'a modifié en
définition juridique.
Une définition juridique extrêmement grave.
Oui, quel code pénal de 2010 a été modifié avec la transmission des statuts de Rome.
Si vous voulez. On traduit la France devant la Cour pénale internationale.
Non, parce que vous avez, ça n'est pas ça la question, mais juridiquement, si vous voulez entrer dans le débat juridique, vous pouvez le faire avec la modification du code pénal de 2010. Ça n'est pas le sujet. La question, c'est comment est-ce que vous réconciliez les mémoires. Donc sortons de ce sujet de droit. Il a dit qu'il avait blessé des personnes.
C'est pas en se battant la coupe qu'on.
Il a dit qu'il avait blessé des personnes. Il l'a reconnu. Oui, d'accord. Mais à force de ne rien dire de ce sujet depuis 50 ans, vous avez des tensions identitaires dans le pays comme jamais. Donc soit on continue à mettre la poussière sous le tapis et à ne pas en parler, soit on assume d'en parler.
On peut en parler, peut-être avec des mots, peut-être un peu moins...
Ce que je remarque, c'est que personne
d'autre
n'en parle.
Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'était ce voyage en Grande-Bretagne où il a dit qu'il avait pas de culture française. J'ai envie de vous dire, est-ce que il a pas lu Rabelais, est-ce qu'il n'a pas lu Victor Hugo, est-ce qu'il n'a pas écouté Ravel, est-ce qu'il n'a pas regardé Delacroix au Louvre?
Alors, ça n'est pas à Londres qu'il dit ça, donc c'est erroné. Il dit pas qu'il n'y a pas de culture française, il dit qu'il n'y a pas une seule culture, mais des cultures en France. Alors, donc, faut être précis.
Non, la culture française, la première partie, ça n'était pas à Londres. En revanche, à Londres, il a dit, je le cite, l'art français, je ne l'ai jamais vu. C'est quand même une phrase surprenante. Et en effet, on peut se demander s'il a été au Louvre, au Musée
d'Orsay. Est-ce que Léonard de Vinci a modifié l'art français? Est-ce que quand François Ier fait venir Léonard de Vinci est un artiste français? Non. Et pourtant, aujourd'hui, il est pleinement rentré dans l'esprit de la Renaissance. Est-ce que Chagall, Picasso et tous les autres, Modigliani au XXe siècle, pardon.
Vous citez à dessein des gens qui sont venus de l'étranger, mais il y en a quand même.
Mais qui ont construit cette culture française. Elle n'est pas figée, cette culture française. Elle est en mouvement. Et donc, quand il dit qu'il n'y en a pas une, ça veut dire qu'il y en aurait une, immuable, figée, et donc ce qu'il adviendrait demain ne construirait pas cette culture française en mouvement? Je veux dire, et c'est laquelle? C'est celle de François Ier? C'est celle de Charlemagne? C'est celle de l'Empire? De quelle culture parle-t-on? C'est cette culture qui est en mouvement, et c'est ce qu'il a voulu dire. C'est à l'opposition, à nouveau, et ça rejoint la ligne de fracture entre les progressistes et les conservateurs. Si vous cherchez à figer les choses dans ce pays, eh bien, vous vous racontez des histoires, vous vous racontez un pays nostalgique qui n'a jamais existé. Ça, c'est le Front National. Pour beaucoup, vous renvoyez le pays dans les années 50 ou 60 dans leur conception de la société française, c'est le programme de François Fillon. Vous êtes dans l'illusion.
Cette phrase sur la culture française, elle a été désavouée par François Bayrou lui-même. Le jour où il a annoncé son ralliement ou son alliance, il a dit, je suis désolé, pour moi, il y a une culture française, elle existe et j'y suis très attaché. Donc, ce propos est peut-être à minima un peu malheureux ou un peu rapide.
Non, je ne crois pas. Emmanuel Macron maîtrise suffisamment la langue française et je crois que ça, chacun le lui reconnaît, et maîtrise suffisamment la culture française pour ne pas se tromper de mots.
Ça ne met pas à l'abri d'une erreur. Lui, ça, vous le savez.
C'est lui le candidat à l'élection présidentielle. Et donc, chacun peut avoir son opinion. Vous savez, c'est aussi ça la force du mouvement, c'est que nous ne sommes pas tous d'accord sur tout et qu'on peut avoir des différences. Lui considère que cette culture française n'est pas figée, qu'elle est en construction et qu'il n'y a pas une vérité révélée sur la culture française dont j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui ce qu'elle est.
Bon, voilà qui est clarifié. Donc, vous voyez, on défend sur RFI France 24 la culture française. On va finir avec la politique, la politique qui sent pas très bon, les affaires Fillon et Le Pen, qui polluent bien évidemment le débat. Est-ce que vous dites c'est dommage parce que, dans le fond, au détriment du reste et des choses plus importantes, ou c'est une campagne doit vivre de ces feux parfois nauséabonds?
Les tribunaux diront le droit, et ça, je ne me prononcerai pas dessus. Moi, je suis toujours...
Non, si vous parlez de l'ambiance, de cette drôle de campagne.
Moi, je suis très étonné que des candidats qui prônent la tolérance zéro demandent des trêves judiciaires. Je considère que quand on aspire aux plus hautes fonctions de l'État, la première des choses, c'est de respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire, puisque si demain on est président de la République, on en sera le garant. Et j'ai donc un problème avec des candidats qui font siffler la justice, qui accusent des magistrats. La mise en cause, ce week-end, par Marine Le Pen, des fonctionnaires, est une faute morale. Elle considère sans doute que l'État pourra demain être privatisé à des fins personnelles. Elle a l'habitude de gérer son parti comme un clan familial, puisque vous avez des Le Pen candidats à l'élection présidentielle depuis 40 ans, et sans doute pour les 20 prochaines années, après le père, la fille, nous aurons sans doute la nièce. Cette conception de l'État, d'un État privatisé à des fins personnelles, n'est pas la nôtre, et je trouve que ça n'est pas à la hauteur des attentes.
Mais sur les cabinets, noirs, ceux qui diffusent des intox, c'est ce qu'elle...
Des intox, en tout cas, si on considère que l'Office de lutte antifraude de Bruxelles est un cabinet noir...
Non, mais c'est ce qu'elle disait sur des fonctionnaires qui...
Les officines. Mais on a rarement vu une campagne présidentielle à ce point chamboulée, bouleversée par l'agenda judiciaire. Est-ce qu'il faut en faire le reproche seulement aux candidats qui sont au cœur de ces affaires, ou est-ce qu'il faut en effet s'interroger sur la pertinence de l'institution judiciaire à entreprendre avec autant de célérité des procédures maintenant, à deux mois de l'élection?
Avec autant de célérité, elle l'a fait dans d'autres cas, et ça n'a pas ému, et je me souviens...
Sur l'affaire François Fillon, c'est vrai que ça a été rapide.
Ça a été rapide, mais ça a été aussi rapide que sur l'affaire des Sportleaks, où l'instruction avait été ouverte en 24 heures. Là, l'instruction n'a pas encore été ouverte, je le rappelle, c'est le parquet national financier s'est saisi. Donc, vous voyez que, à nouveau, ce procès est un mauvais procès et je pense qu'il dévalue aujourd'hui, aux yeux des Français, l'institution judiciaire quand on prétend aux plus hautes fonctions de l'État. C'est une faute morale.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Benjamin Griveaux et merci à Pauline Hellman et Audrey Attoni qui nous ont aidé à la préparer, Roselyne.
Ouais.
Et Mardi Politique revient mardi prochain.
Ben oui, mardi prochain. À très vite à tous.